Il était parti de Kuala Lumpur et devait arriver à Pékin. C'est près du Vietnam que le contrôle aérien a perdu sa trace. À son bord se trouvaient 239 personnes, en majorité des Chinois. Parmi les victimes se trouveraient également 3 Français.
Bonsoir, c'était il y a 7 ans, dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysian Airlines disparaissait subitement des écrans de contrôle. Une évaporation en plein ciel, comme si le Boeing 777 et ses 239 passagers avaient tout simplement été effacés du ciel entre la Malaisie et la Chine, là où ils devaient se poser. Va alors commencer le plus grand des mystères de l'aviation civile. Aucune trace d'un crash, de gigantesques recherches qui ne donnent rien, une enquête verrouillée. La thèse officielle va dire que l'équipage, pour une raison inconnue, aurait mis cap au sud-ouest, à l'opposé de sa route initiale, aurait volé ainsi jusqu'à la dernière goutte de kérosène, sauf que cette hypothèse est contestée par certaines expertises. Pourquoi les recherches ont-elles été orientées dans une zone où le MH370 n'aurait jamais été aperçu? Pourquoi cette diversion? Pourquoi tous ces mystères au plus haut sommet des États? Bavure militaire, attaque délibérée, et si le vol de la Malaisienne avait été tout simplement abattu? Autant de questions que nous allons explorer ce soir avec nos invités, à la faveur d'un livre révélation, Vol MH370, la disparition, une enquête qui révèle les dessous de cette affaire et livre un scénario des plus troublants.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Il est presque minuit ce vendredi 7 mars 2014 à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. 239 passagers sont attendus à l'embarquement du vol MH370 à destination de Pékin. 5h34 de vol, une majorité de Chinois qui rentrent chez eux. 4 Français sur la liste, Laurence Waterloo, sa fille Ambre, 13 ans, son fils Adrien, 17 ans, et la petite amie franco-chinoise de celui-ci. Aucun incident à signaler lors de l'embarquement. À 0h40, le Boeing 777-200 décolle dans le ciel de la Malaisie. Les conditions de vol sont excellentes. À bord, tout se passe bien, pas de tension particulière. Les échanges entendus depuis le début du vol dans le cockpit de pilotage par la tour de contrôle sont détendus. Après 40 minutes de vol, l'avion s'apprête à quitter l'espace aérien malaisien à 1h19. Le commandant de bord adresse ainsi à la radio le message classique « Good night, Malaysian 370, bonne nuit à tous », signé Malaysian 370. En entrant en territoire vietnamien, il est prévu que le commandant se manifeste avec le message suivant « Ici MH370, bonjour Ho Chi Minh », mais ces mots ne seront jamais prononcés. À 1h20, 5 secondes après avoir passé une balise face à la pointe du Vietnam, toute communication est soudain interrompue. Silence radio total en provenance du Boeing de la Malaisienne. Vers 1h30, le pilote d'un vol de la Japan Airlines à destination de Tokyo serait brièvement rentré en contact avec le vol MH370, mais la conversation se serait avérée brouillée, inaudible. Ce témoignage reste aujourd'hui classé confidentiel. Les tours de contrôle de la région attendent en vain un message de l'appareil, mais aucun signe de vie ou de détresse, aucun SOS concernant par exemple un détournement ou un incident mécanique. L'inquiétude domine. Il faut malgré tout attendre 5h30 le matin, samedi 8 mars, pour que l'alerte soit officiellement lancée. 2 heures plus tard, Malaysian publie un premier communiqué. Tous les pays de la région proposent leurs équipes de secours. La France envoie une équipe du bureau enquête accident, le BEA. Les Américains délèguent leurs experts, mais aussi des hommes du FBI et d'agences de renseignement qui vont aussitôt se rendre au siège de la Malaysian Airlines. Les Vietnamiens vont rapidement faire savoir que l'avion s'est écrasé au large de leur côte. Une immense traînée de fuel aurait été repérée. Mais curieusement, cette information n'aura aucune suite. Silence officiel qui va alimenter une multitude d'hypothèses jusqu'à ce que surgisse la thèse d'un geste délibéré du pilote ou du copilote. Le choix de se détourner à l'opposé de sa route initiale peut être un acte de pure démence. Dans les jours qui suivent la disparition du Boeing 777 de la Malaisienne, des informations disparates circulent sur la catastrophe. La thèse d'un détournement est avancée. Il est ainsi fait état de 2 Iraniens, Pouria Nour Mohamed, 19 ans, et Seyed Mohamed Rezar Delawar, 29 ans, embarqués avec des passeports volés deux hommes qui sont peut-être impliqués dans une action terroriste. La publication de leurs photos ajoute à la confusion. C'est un photomontage, même jambes et même basket aux pieds pour tous les deux. Les autorités avancent une erreur de photocopieuse. Les services de renseignement ne trouveront rien sur ces deux hommes, soucieux de fuir l'Iran pour retrouver leur famille en Europe en passant par la Chine. Apparaissent aussi des doutes de plus en plus insistants sur les personnalités du copilote et du pilote. Le premier, 27 ans, est tour à tour présenté comme un musulman rigoureux et pieux, puis comme un fêtard invétéré. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, 53 ans, serait lui en plein marasme affectif et familial. Il aurait pu choisir d'en finir avec la vie en s'écrasant avec l'avion, version qui a toujours aujourd'hui encore ses partisans, même si rien de suspect n'a été trouvé dans la vie du commandant de bord. 6 jours après le décollage du vol MH370, le journal financier américain The Wall Street Journal fait une révélation capitale. Sur la foi de diverses sources, il est affirmé que l'appareil a continué à voler plusieurs heures après la fin des communications radio. Des relevés de l'agence anglaise de satellites Inmarsat disent avoir capté des signaux de passage de l'avion, mais pas sur la route prévue dans le plan de vol, non pas vers le nord, la Chine, mais vers le sud, l'Indonésie, le cœur de l'océan Indien. Des experts mettent en doute la fiabilité de ces signaux. Le 21 mars, une image radar du MH370 au large de l'Indonésie est même présentée aux familles à Pékin. Mais il sera établi que cette image n'est sans doute pas celle de l'avion. Malgré les doutes et les contradictions qui entourent ces informations, la thèse d'un détournement officiel du vol vers l'Indonésie devient la thèse officielle. Le 24 mars, le Premier ministre malaisien annonce que l'appareil a pris la route du sud et s'est abîmé au beau milieu de l'océan Indien, à l'ouest de Perth, en Australie, une zone isolée, loin de toute terre, où personne n'a repéré de débris, où aucun témoin n'a signalé un événement suspect. Un territoire maritime immense, autant chercher une aiguille au fond de l'océan. Des recherches gigantesques vont être entreprises dans l'océan Indien avec l'espoir de retrouver les boîtes noires du Boeing. La thèse officielle, celle d'une route imprévue empruntée par le MH370, est désormais celle qui est retenue par les autorités de la région Pékin, Bangkok, Kuala Lumpur, mais bien au-delà jusqu'à Washington et Paris. Il faut faire vite pour tenter de retrouver les boîtes noires de l'appareil. Les experts et les secours disposent d'environ 30 jours pour capter un signal. Après cela, les boîtes cesseront d'émettre. Les autorités australiennes dirigent les recherches dans cet océan désertique, loin de toute terre et à l'écart des grandes routes de navigation. Un lieu idéal pour se perdre. Recherche gigantesque, pas moins de 550 militaires, des avions, des bateaux mobilisés. Les fausses pistes se multiplient et les faux espoirs aussi pour les familles des victimes. On croit un jour avoir retrouvé des débris ou avoir capté des signaux, mais tous ces espoirs s'écroulent. Le 11 avril, le Premier ministre australien déclare malgré tout avoir bon espoir de localiser les boîtes noires. Le 28, ce même chef du gouvernement australien déchante et estime à présent qu'il est hautement improbable que l'on découvre le moindre débris en surface. En dépit de cet échec, le postulat officiel demeure. Le vol MH370 a été délibérément détourné de sa route initiale. Pas de preuves pour étayer cette version qui va être désormais la seule à être retenue. Les spectaculaires recherches au large de l'Australie sont relayées par les télévisions du monde entier. Le suspense est total, même si rien ne fuite réellement d'une enquête très protégé, comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Il faut bien le reconnaître, jamais accident d'un avion civil n'a déclenché une telle mobilisation de la part de tous les gouvernements concernés. À Washington, c'est la Maison-Blanche qui s'occupe directement du dossier. À Pékin et Kuala Lumpur, les gouvernements ont aussi la mainmise sur les investigations. Les experts du fabricant de l'appareil, ici l'américain Boeing, et des moteurs, l'anglais Rolls-Royce, sont normalement associés à l'enquête. pas pour l'instant, dans le cas présent, le patron de la compagnie Emirates, compagnie qui utilise une importante flotte de 777, déclare dans une interview au mois d'octobre 2014, je le cite, « De toute l'histoire de l'aviation, il n'y a pas eu un incident au-dessus de l'océan qui ne fût pas au moins 5 à 10% traçable. Quand on pose un peu trop de questions sur ce sujet, on perçoit une certaine agressivité. » Le secret qui règne sur cette enquête au sein de toutes les capitales concernées accrédite pour beaucoup le fait qu'il faut cacher la vérité. Les thèses les plus extrêmes portées par le complotisme vont bien sûr se développer. Et si l'explication de cette disparition se trouvait dans les soutes du Boeing de la Malaisienne ? Peu après la disparition, dès le début de l'affaire, les théories sur une action militaire s'étaient immédiatement propagées. L'île de Diego Garcia dans l'océan Indien, base militaire britannique louée aux États-Unis, camp stratégique dans la lutte antiterroriste internationale, aurait en fait été une cible sur laquelle le Boeing devait s'écraser. Il en aurait été empêché, abattu par la chasse américaine. Théorie étayée par aucun élément, les militaires n'y croient pas, les agences de renseignement non plus, secret militaire de toute façon très bien gardé. Pas davantage d'explications données sur la présence simultanée sur la route du Boeing, dans les deux heures suivant son décollage, de deux avions radar AWACS de l'armée américaine. Guylain Waterloo, alors dans une interview accordée au journal Le Parisien, cite une interminable série d'incohérences. On se rend compte qu'il y a plusieurs listes de passagers contradictoires, par exemple sur le placement des passagers. On a aussi appris qu'un mystérieux chargement de 89 kilos aurait été rajouté sur la liste de vol après le décollage, confie le français partie civile dans le dossier. Ce chargement, le cargo, comme on dit dans le jargon de l'aviation, ce fret embarqué attire effectivement l'attention. 10 tonnes de fret environ, dont pas moins de 4,5 tonnes de mangoustan, un fruit exotique très prisé en Asie, mais qui n'est alors pas du tout de saison. Il faut surtout ajouter à ce chargement près de 2,5 tonnes de matériel électronique, des batteries au lithium, des accessoires de Tokiwoki et de chargeurs expédiés par la firme américaine Motorola. Un ensemble très peu détaillé dans les documents de bord, mais en fait très dangereux. Les batteries, inflammables, auraient-elles pu exploser ou s'embraser en causant la perte de l'avion ? Pourquoi, dans ce cas-là, le pilote n'aurait pas transmis un signal d'alerte en vue d'un accident imminent ? Selon la thèse accidentelle, la fumée aurait pu envahir la cabine, causant l'hypoxie des passagers. Sur pilotage automatique, l'avion aurait continué à voler dans une direction improbable. Il aurait fini par s'écraser, faute de carburant. Une opération pour récupérer du matériel qui serait en fait de la haute technologie militaire, une cargaison très attendue en Chine, opération qui se serait soldée par la perte de l'appareil qui se serait abîmé, non pas dans l'océan Indien, donc, comme dit la version officielle, mais bel et bien au large du Vietnam. Le 29 juillet 2015, un flaperon, c'est-à-dire l'un des volets placés sur les ailes de l'appareil, actionné au décollage et à l'atterrissage, un flaperon est découvert sur une plage de la Réunion. Il pourrait appartenir au Boeing 777 de la Malaisienne. Alors, en l'absence de tout élément d'identification, aucune certitude ne va être établie sur l'origine de cette pièce par les experts de Boeing. Après analyse du laboratoire de la Direction Générale de l'Armement à Balma, près de Toulouse, le parquet de Paris affirme toutefois que, avec certitude, le flaperon appartient bien au MH370. Entre le 22 et le 24 mai 2015, les juges et les enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens se rendront au siège de Boeing à Seattle, aux États-Unis, rencontre placée sous le sceau de la confidentialité, des éléments pouvant être communiqués aux parties civiles, mais pas enregistrés officiellement dans la procédure. Les enquêteurs français, parmi lesquels des spécialistes de l'antiterrorisme, diront à cette époque avoir la certitude que l'appareil a bien été piloté jusqu'au bout, accréditant ainsi la piste d'un geste délibéré ou d'un vol devenu incontrôlable après un incident à bord, incendie ou asphyxie générale. 7 ans après, de mystère en mystère, le MH370 reste toujours et encore au cœur des interrogations. Accident, suicide du pilote, incendie à bord, bavure militaire, détournement raté, le ciel de l'Asie et l'immensité de l'océan Indien n'ont jamais livré le secret de cette disparition.